même. L'enfant n'est pas morte, dit Jésus. Est-ce qu'il ment? Les gens venus de chez Jaïrus viennent de lui dire, ta fille est morte. Jésus dit, l'enfant n'est pas morte. Qui dit la vérité? Qu'est-ce que vous pensez? L'enfant est morte, oui ou non? Si, elle est morte. Les gens qui viennent de la maison viennent de dire qu'elle est morte. Jaïrus sait qu'elle est morte. Madame Jaïrus sait qu'elle est morte. Et nous savons qu'elle est morte. Alors pourquoi est-ce que Jésus dit, elle n'est pas morte? Ah, voilà. Ça semble un mensonge. Un mensonge de dire l'enfant n'est pas morte alors qu'elle est morte. Eh bien non, ça dépend bien sûr de comment on regarde la mort. Quand Jésus dit l'enfant n'est pas morte, c'est parce que lui, il voit la situation autrement que Jaïrus et Madame Jaïrus et tous les gens dans la maison. Parce que Jésus voit la situation, pas seulement comme l'homme le voit, mais aussi et surtout comme Dieu le voit. Jésus voit non seulement la dimension humaine, terrestre, mais Jésus voit aussi, et en même temps, la dimension céleste, la dimension spirituelle, surnaturelle, divine. Mes frères et sœurs, nous aussi, confrontés à des problèmes, des difficultés, nous devons suivre l'exemple de Jésus, apprendre à suivre l'exemple de Jésus et découvrir la dimension divine à cette situation. Car dimension divine, dimension surnaturelle, il y en a. La découverte des dimensions divines de nos problèmes et de nos difficultés ne vont pas nécessairement changer ces problèmes et ces difficultés. Mais la découverte des dimensions divines de nos problèmes et nos difficultés nous change, nous. Change notre façon de regarder ces problèmes, de gérer ces difficultés. Car dès que nous découvrons les dimensions divines, célestes, spirituelles, des circonstances de notre vie, nous ne nous limitons plus à les regarder, à les gérer comme le monde les présente, comme le diable les présente. Mais nous commençons à les regarder comme Dieu les voit. Et alors nous commençons à agir comme Jésus agit. C'est une histoire si bien connue, n'est-ce pas? C'est pas la première fois que vous entendez un message sur la fille de Jaïrus. Mais c'est bien une histoire unique dans la Bible. Pourquoi? Eh bien, il y a 8 ressuscités de la mort dans la Bible, dont 4 enfants. Et parmi ces 4 enfants, 3 garçons et seulement une fille. La fille de Jaïrus. Elle a 12 ans. Elle est malade. Même très malade. Même pire que malade, elle est mourante. Jaïrus, le chef de la synagogue à Capernaum, un homme respecté, un homme riche. Sans doute qu'il a consulté les meilleurs médecins avec sa fille. Sans doute qu'elle a avalé tous les médicaments, suivi tous les traitements prescrits, mais rien n'a aidé. Et Jaïrus a dû regarder sa fille, la maladie de sa fille s'aggraver, de jour en jour. Et maintenant, il dit, elle est à l'extrémité. Il n'y a plus d'espoir, donc. Il n'est qu'une question de temps. qu'il y a des gens ici ce matin comme Jaïrus? Vous vous trouvez devant un problème, devant des circonstances dans votre vie. Vous avez déjà tout essayé, espéré, suivi conseil, tout fait ce que vous pouvez faire. Mais rien n'a aidé. Et la situation s'aggrave de jour en jour. Et aujourd'hui, comme Jaïrus, vous dites, je suis à l'extrémité. J'en peux plus. Par exemple, des gens qui luttent depuis longtemps contre tel ou tel péché, qui n'arrivent pas à le vaincre. Ou des gens qui sont malades depuis longtemps. Les médicaments, les traitements n'aident pas. Ou des gens qui désespèrent pour leur mariage, leurs enfants, leur travail, leur finance. Des gens qui, comme Jaïrus, disent, je suis à l'extrémité. Jaïrus vient à Jésus. Et quand nous sommes à l'extrémité, quand nous ne pouvons aller nulle part d'autre, on a déjà tout essayé, on peut venir à Jésus. Alléluia. Quand même étrange que Jaïrus, chef de la synagogue, qu'est-ce que vous pensez? C'est un homme croyant, non? Oui, si vous êtes pasteur, vous êtes croyant, j'espère. Alors pourquoi est-ce qu'il attend si longtemps pour venir au Seigneur? Il y a beaucoup de gens comme lui, n'est-ce pas? Ils essaient d'abord toutes les autres choses, toutes les autres solutions, des autres, ils consultent des autres experts, n'est-ce pas? Les autres spécialistes. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils soient à l'extrémité avant de venir à Jésus. Comment ça se fait? Ignorance? Ce n'est pas le cas avec Jaïrus. Il ne peut pas plaider l'ignorance. Jaïrus sait que Jésus guérit. Toute la région de Capernaum parle de Jésus et de ses miracles. La Bible dit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Ils commandent avec autorité même aux mauvais esprits et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environs de la Galilée. Il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée. Il chassa les démons. Jaïrus sait ça. De Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant ce qu'il faisait, vint à lui. Capernaum, petit village de 400 habitants, maintenant est rempli de gens qui sont venus même de très très loin pour voir Jésus, pour voir les miracles qu'il fait. Comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Jésus opère des miracles à Capernaum aussi, la ville de Jaïrus. Il y avait tellement de monde que la maison dans laquelle Jésus prêchait était remplie. Personne ne pouvait entrer. Quatre jeunes arrivent avec un de leurs amis paralysé sur un lit. Ils peuvent pas entrer dans la salle. Il n'y a pas de place, encore moins pour un lit. Ils montent sur le toit. Font un trou dans le toit. Attachent des cordes au lit de leur ami et descendent le lit avec le paralytique au pied de Jésus. Et Jésus le guérit sur le champ. Un lépreux est purifié. Jésus sait Jaïrus sait que Jésus guérit. Il a même été témoin de miracles merveilleux lui-même. Dans sa propre synagogue, il y a quelques semaines seulement, synagogue à Capernaum dont il est le chef, donc le pasteur, au milieu du culte de sabbat, un homme perturbait le culte en criant « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, un homme possédé du diable. » Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Jaïrus a vu ça. Il était là. La belle-mère de Pierre, qui habite en face de la synagogue, n'était pas au culte ce sabbat-là, parce qu'elle était au lit, avec une fièvre. Et quand Jésus l'a su, s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Quelque temps après, encore une fois dans sa synagogue à Capernaum, Jaïrus a vu Jésus opérer encore un miracle. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'entendit, l'étendit, et sa main fut guérie. Jaïrus sait que Jésus guérit. Mais quand sa fille tombe malade, il attend. Il attend qu'elle soit mourante avant de venir à Jésus. Encore une fois, pourquoi? Encore une fois, pourquoi comme Jaïrus est-ce que tant de gens dans ce monde attendent si longtemps avant de venir à Jésus? Si ce n'est pas par l'ignorance, c'est peut-être par orgueil. L'orgueil empêche beaucoup de gens à venir à Jésus. On n'aime pas admettre qu'on est pécheur, n'est-ce pas? On n'aime pas admettre qu'on ne peut pas se sauver soi-même, qu'on a besoin d'aide, qu'on n'arrive pas à contrôler ou à réussir sa vie soi-même. Mais encore une fois, le problème chez Jaïrus n'est pas l'orgueil. Il n'est pas orgueilleux. Et on t'a perçu Jésus, il se jeta à ses pieds. Ça n'est pas l'orgueil, ça. C'est l'humilité. Et nous ne devons jamais permettre à l'orgueil de nous empêcher de pardonner ou de demander pardon, d'admettre qu'on a tort, qu'on s'est trompé, qu'on a mal agi. Ne permettons pas à l'orgueil de nous empêcher de changer de cap, de se convertir au Seigneur, de venir à Jésus. Non, c'est pas l'ignorance, ni l'orgueil qui empêche Jaïrus de venir à Jésus. C'est probablement autre chose. Peur. La peur. Pourquoi? Parce que les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, les chefs de la religion juive, les gens qui sont au-dessus de Jaïrus dans l'hiérarchie, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Jésus est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Vous comprenez? Il ne renie pas que Jésus fait des miracles. Ils peuvent pas le renier. Mais ils disent, c'est pas par la puissance de Dieu qu'il fait les miracles, c'est par la puissance du diable. C'est un autre sermon, mais ça, ils commettent le péché impardonnable, n'est-ce pas? C'est pas la première fois que les gens rejettent ce que Dieu envoie. Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, « J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent, « Nous n'y serons pas attentifs. » Dieu dit par la bouche du prophète Ézéchiel, « La maison d'Israël ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. » par la bouche du psalmiste. Mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Et Jésus lamente lui-même, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Et je crois que c'est pour cela, frères et sœurs, que l'épître aux Hébreux nous appelle à nous, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. L'apôtre Paul écrit, voici maintenant le temps favorable. Maintenant le jour du salut. Ne le mettons pas à demain. Ce que nous pouvons, ce que nous devons faire aujourd'hui. Les Flamands disent, savez ce que c'est un wallon? Si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Pas un wallon chrétien, n'est-ce pas? Non, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons, ce que nous devons faire aujourd'hui. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Jésus est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Vous voyez, Jaïrus pourrait avoir des grands problèmes avec les autorités religieuses, même perdre sa position de chef de la synagogue s'il se montre favorable à Jésus. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont comme Jaïrus. Ils ont peur. Ils savent qui est Jésus. Mais ils ont peur de se convertir à lui et de le suivre, peur de la réaction de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues. Quel dilemme pour Jaïrus, n'est-ce pas? Pour garder sa position, son avenir, il devrait suivre l'exemple des experts venus de Jérusalem et prendre position contre Jésus. Mais sa fille est mourante. Et Jésus est maintenant son seul espoir. Que faire? Risquer sa position et sa réputation? Ou risquer la vie de sa vie, de sa fille? Il attend jusqu'à ce qu'elle soit à l'extrémité. Et puis il se décide. Quitte le lit de malade de sa fille. Et vient trouver Jésus. Il se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Je ne l'ai pas lu, j'ai sauté une partie de la lecture pour que ce ne soit pas trop long, mais dans cette foule, qui le suivait et le pressait, se trouve quelqu'un d'autre qui a besoin de Jésus. C'est-à-dire une femme qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans déjà. Elle vient par derrière, elle touche le vêtement de Jésus, et elle est guérie instantanément. Quel encouragement pour Jaïrus, n'est-ce pas? Jésus est en bonne forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais l'espoir de Jaïrus se transforme vite en désespoir, n'est-ce pas? Comme Jésus parlait encore à cette femme qui venait d'être guérie de sa perte de sang, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Tous ceux parmi nous qui ont perdu un bien-aimé savent ce que ressent Jaïrus quand il entend ces paroles. Ta fille est morte. C'est peut-être pas ta fille. Ça pourrait être ton père ou ta mère ou un proche ou un ami. Mais quand on nous annonce un décès, ça fait quelque chose. D'autant plus s'il s'agit d'un enfant. Ta fille est morte. Lisons-nous les pensées, sentons-nous les émotions qui frappent Jaïrus en cet instant. Il y a quelques instants, l'espoir. Maintenant, désespoir. Il y a quelques instants, lumière. Maintenant, ténèbres. Il y a quelques instants, courage. Maintenant, découragement. Immense tristesse, n'est-ce pas? On lit ses pensées. C'est trop tard. Il n'y a plus aucun espoir. Terrible, injuste. Et peut-être, ou peut-être même probable, parce que c'est humain, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ma fille? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ma fille meure? Et peut-être, pourquoi est-ce que Jésus a joué avec mes pieds? Il a promis de venir avec moi. Il s'est laissé freiner par cette femme avec sa perte de sang. Et maintenant, c'est trop tard. Cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, Jésus n'a pas su ça? Si. Ben, si elle perdait du sang depuis 12 ans, elle était malade depuis 12 ans, elle aurait quand même pu attendre encore 1 heure, n'est-ce pas? Avant d'être guérie. Comme ça, Jésus aurait été à temps pour sauver la fille de Jaïrus. Est-ce que Jésus n'a pas compris que le cas de Jaïrus était plus urgent, avait priorité? 1 heure de plus n'aurait pas fait l'affaire pour cette dame-là. Si elle n'était pas venue, en somme, voler sa guérison, la fille de Jaïrus ne serait pas morte. Peut-être que Jaïrus est très déçu en Jésus. Peut-être que les scribes avaient quand même raison. Peut-être qu'il ferait quand même maintenant mieux de suivre le conseil des messagers et en effet de ne plus importuner le maître. Nous connaissons aussi des gens qui parlent ainsi, n'est-ce pas? Des gens qui autrefois peut-être croyaient en Jésus, suivaient Jésus. Priez à Jésus, jusqu'à ce qu'il ne soit passé quelque chose dans leur vie qui les a déçus. Jésus n'a pas répondu à leur prière ou il n'a pas répondu de la manière qu'ils auraient voulu. Des frères et sœurs, l'Église les a déçus d'une façon ou de l'autre. Quoi qu'il en soit, le problème n'a pas été résolu comme ils le voulaient. Ils ont perdu leur foi. Dit au revoir au Seigneur et à son Église. Comme Jésus parlait encore à la femme qui venait d'être guérie de sa perte de sang, survinrent le chef de la synagogue, de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Et puis nous lisons ceci, et c'est aussi très important. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Jésus entend ce qu'ils disent, mais il ne l'écoute pas. Il y a une différence entre entendre et écouter, n'est-ce pas? Non? J'ai un petit-fils qui n'aime pas aller au lit. Et quand sa maman dit, c'est l'heure, il faut aller au lit, mets ton pyjama, il entend. Mais il reste devant la télévision. Il entend, mais il n'écoute pas. Vous riez parce que vous avez eu des enfants pareils. Nous avons été comme ça, nous aussi, n'est-ce pas? Nous n'avons pas toujours la possibilité de choisir ce que nous entendons. Par contre, nous avons toujours la possibilité de choisir ce que nous écoutons. Qui nous écoutons? Jésus entend, mais il n'écoute pas. Suivons-nous son exemple? Par exemple, quand le diable nous tente, quand le diable contredit la parole de Dieu, quand les gens racontent des mensonges ou des ragots, on les entend, le diable, les gens. Est-ce qu'on les écoute? Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Jésus entend, mais il n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas le message? Parce qu'il ne croit pas le message? Parce qu'il a peur de la vérité? De l'échec? Parce qu'il se sent coupable d'avoir passé du temps avec la dame avec sa perte de temps et maintenant c'est trop tard? Se sent coupable de ne pas avoir exaucé la supplication de Jaïrus de sauver sa vie? Non. Si Jésus n'écoute pas, c'est parce que ce que les gens de la maison de Jaïrus disent ne correspond pas avec sa vue de la situation. Les gens venus de la maison de Jaïrus disent « Ta fille est morte ». Et ils disent cela sur base de ce qu'ils voient humainement. Jésus répond, ne crains pas, crois seulement. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort, sur base de ce que lui, il voit divinement. Les gens venus de la maison de Jaïrus ne voient que le passé et le présent, tandis que Jésus voit aussi l'avenir. Et comme les messagers de la maison de Jaïrus, nous ne regardons souvent pas plus loin que ce que nous croyons être la réalité d'aujourd'hui, tandis que Jésus voit toujours la réalité de demain. Il voit même le soi-disant réalité d'aujourd'hui à la lumière de la réalité réelle de demain. Et Jésus voit toujours plus loin que nos circonstances. Il regarde toujours au-delà de nos situations. Alors quand nous ne voyons que le péché, la chute, Jésus, lui, voit le pardon et le rétablissement. Quand nous voyons la maladie, Jésus voit la guérison. Quand nous voyons la dépression, la peur, l'angoisse, Jésus voit la délivrance, la joie, la paix. Quand nous voyons la défaite, Jésus voit la victoire. Quand nous voyons le désespoir, Jésus voit l'espoir. Et quand nous, et Jaïrus, et Madame Jaïrus, et les gens de sa maison voient la mort, Jésus, et j'espère nous voyons la vie. Alléluia. Jaïrus a attendu jusqu'à ce que sa fille soit à l'extrémité avant de venir à Jésus. Il semble maintenant, aussi bien lui qu'à toute la foule, qu'il ait attendu trop longtemps. Mais heureusement pour lui, et heureusement pour nous, il n'est jamais trop tard pour venir à Jésus. Nous croyons ça vraiment? Il n'est jamais trop tard pour venir à Jésus. Dans la parabole du fils prodigue, vous connaissez la parabole, le jeune homme, le jeune fils prodigue, il attend jusqu'à ce qu'il ait dépensé tout son argent. jusqu'à ce qu'il soit vraiment à l'extrémité pour revenir au Père. Et la Bible dit, le Père le voit venir de loin. Qu'est-ce que le Père réagit? Barricader les portes. Hein? Non, il le reçoit. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Prends que t'es maigre. Et tu pues comme un cochon. Non. Il ordonne une fête. Le malfaiteur crucifié à côté de Jésus attend jusqu'à quelques instants avant sa mort pour confesser qu'il est pécheur. Mais Jésus lui promet, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'est jamais trop tard pour venir à Jésus. Et à Jaïrus, qui a attendu jusqu'à ce que sa fille soit à l'extrémité, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. À première vue, une réponse quand même un peu étrange. Même un peu insensible. L'homme vient d'apprendre que sa fille est décédée. Et vous lui dites, ne crains pas. Crois seulement. Mais ces paroles sont un réconfort et un encouragement. Et surtout, une clé qui va permettre à Jaïrus de découvrir la dimension divine de sa situation et d'expérimenter un miracle. Ne crains pas, crois seulement. Ce qu'il ne doit pas faire, craindre. Et ce qu'il doit faire, croire. Ne crains pas, crois seulement. Très bien. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne réponse maintenant? Est-ce que Jésus ne ferait pas mieux de répondre autrement? Parce que Jaïrus a cru, n'est-ce pas? S'il n'avait pas cru, il ne serait pas venu à Jésus. Mais sa foi n'a pas été exaucée, c'est clair. Sa fille est morte quand même. Alors, si Jésus lui avait dit ça il y a une demi-heure, ça aurait été bien. Mais maintenant, est-ce que les gens venus de sa maison n'ont pas raison de dire pourquoi importuner davantage le maître? Est-ce que Jésus ne ferait pas mieux de réconforter Jaïrus maintenant, d'exprimer ses condoléances? Acheter des fleurs pour les funérailles de la fille? Jésus ne donne pas de condoléances. Et le ciel n'envoie pas les fleurs. Qu'est-ce que fait le ciel? Le ciel envoie le lys des vallées et le rose de Saron en personne. Ne crains pas. Crois seulement. Ça semble être le texte favori de Dieu. J'ai lu, et vous avez peut-être lu, que c'est un verset qui se répète 365 fois dans la Bible, c'est-à-dire une fois pour chaque jour. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas 365 fois, c'est une bonne centaine de fois. C'est déjà beaucoup. Et c'est déjà de loin le texte le plus répété de la Bible. Dieu dit à Abraham, ne craignez pas, je ne vais pas lire toutes les 120 fois. Mais Dieu dit à Abraham déjà, la première fois que Dieu dit ne crains pas, Abraham ne craint point, je suis ton bouclier. Isaac, ne crains point, je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. À Moïse, ne crains point l'ennemi, je le livre entre tes mains. Au peuple d'Israël, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. À Josué, ne crains point, je livre les ennemis entre tes mains, aucun d'eux ne tiendra devant toi. À Gédéon, sois en paix, ne crains point. Au serviteur du prophète Élisée, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Au roi Salomon, fortifie-toi, prends courage, ne crains point. T'effraie point. Au roi Ézéchias, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Au prophète Jérémie, Ne crains point, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, et à tous les enfants de Dieu. Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Jésus dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant, et j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et maintenant, Jaïrus, et tous les Jaïrus parmi nous, je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés. Oui, ne crains pas. Vous qui êtes francophones, c'est un conseil ou c'est un ordre? C'est un impératif. Et tous les versets que j'ai lus sont dans le sens impératif, n'est-ce pas? C'est pas un conseil. C'est un ordre, soyez fort. Est-ce que vous pouvez ordonner à quelqu'un de ne pas craindre? Dites ça à moi quand je suis dans la salle d'attente du dentiste. Hein? Ah oui, vous riez. Vous riez. Et moi, j'ai un rendez-vous d'ici peu. Hein? Je n'en peux rien que j'ai peur du dentiste. C'est une dame, elle est gentille, une jeune dame, elle est une gentillesse quand même. Mais ça n'empêche pas que je dois payer pour me faire torturer. Hein? Ne crains point, c'est facile à dire, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Mais est-ce que vraiment on peut ordonner de ne pas craindre? On ne peut rien faire si on craint, si on peut faire quelque chose. On ne peut pas toujours éviter la peur, soyons honnêtes. On ne peut pas toujours bannir la peur. Mais ce que nous pouvons faire, c'est empêcher la peur de nous effrayer. N'est-ce pas? De dicter nos décisions, de déterminer notre conduite, notre comportement. Et un chrétien ne doit jamais permettre au diable de dominer sa vie par la peur. Parce que la peur paralyse. Et la peur paralyse la foi. La vie d'un chrétien ne doit pas être dirigée par la peur, mais par la parole. Par la volonté de Dieu, par la foi. La peur paralyse la foi. Il est quasiment impossible d'exercer à la foi et la peur, c'est l'un ou l'autre. La peur n'est pas toujours un choix. D'habitude, ce n'est pas un choix. Par contre, la foi, c'est toujours un choix. Nous ne choisissons pas de craindre, mais nous choisissons d'avoir la foi. La foi en Dieu. Nous choisissons de mettre notre confiance en lui, de croire et d'obéir à sa parole. Et alors, quand la peur, et n'oublions pas, la peur vient du diable, quand la peur nous envahit, essaye de s'emparer de nos pensées, de dicter notre comportement, nous nous tournons consciemment vers le Seigneur, car nous marchons par la foi. Et non par la vue. Jésus dit à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Une invitation à remplacer sa tristesse, son découragement, sa peur, par la foi. Et comme je dis déjà, la foi va ouvrir la porte au miracle. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. On louait des pleureurs professionnel à l'époque. Et la maison en était remplie. Jésus entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Vous êtes d'accord avec moi? Jésus n'a pas encore vu l'enfant, n'est-ce pas? Il n'est pas encore monté dans sa chambre. Comment est-ce qu'il sait ça? Il ne l'a pas examiné? Jésus ne ment pas à Jaïrus, parce que Jésus ne ment jamais. Jésus dit toujours la vérité. Plus encore, il est la vérité. Il est impossible que Dieu mente. Si Jésus dit « l'enfant n'est pas morte », c'est parce que sa vue de la situation est tout à fait différente de celle des gens venus de la maison de Jaïrus. L'enfant n'est pas morte. Humainement parlant, elle est morte. Mais Jésus ne parle pas humainement. Il parle divinement. Il n'a pas encore vu la fille de Jaïrus, pas encore entré dans sa chambre, pourtant, il déclare déjà, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. La vision divine, par la foi en Dieu. Oh, les gens de la maison de Jaïrus se moquaient de lui. On les comprend. Eux, ils ne voient que le visible, tandis que Jésus voit aussi l'invisible. La dimension divine. Et Jésus voit toujours la dimension divine. Oh, quand tant d'exemples dans la parole de Dieu. Jésus voit toujours la dimension divine à chaque circonstance, à chaque situation. Et alors, quand nous voyons la dimension humaine du péché, Jésus voit la dimension divine du pardon. Quand nous voyons la dimension humaine de la maladie, Jésus voit la dimension divine de la guérison. Quand nous voyons la dimension divine, humaine, de la défaite, Jésus voit la dimension divine de la victoire. Et quand nous, et Jaïrus, et Madame Jaïrus, et toute la foule, voient la dimension humaine de la mort, Jésus voit la dimension humaine de la vie. Quand il reçoit les nouvelles de la maladie grave de Lazare. Jésus dit, oui, mais cette maladie n'est pas la mort, mais pour la gloire de Dieu, la dimension divine. Et quand Jésus lui-même est à la croix, tout le monde qui est autour de cette croix dit, fini, aucun espoir, échec, défaite. Et l'Épître aux Hébreux dit, pour la joie qui était devant lui, il a souffert la mort. Pourquoi? Il voyait au-delà. Pas seulement la dimension humaine de la souffrance, de la mort, de l'ignominie, de l'humiliation, mais aussi la dimension divine de la victoire sur le péché, d'ouvrir le chemin au ciel pour tous ceux qui croiraient en lui. L'enfant n'est pas morte, elle dort. Il y a une dimension divine à la situation de Jaïrus et il y a une dimension divine à nos situations et nos circonstances à nous. Il se moquait de lui. Alors, et on fait sortir tout le monde et prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Jésus met ceux qui se moquent de lui, il les met dehors. Il faut du calme. Il faut de la sérénité et il faut surtout la foi pour que le miraculeux s'opère. Et le miraculeux ne s'opère pas dans une atmosphère d'incrédulité et de dérision. Jésus prit avec lui le père, la mère de l'enfant, ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il le saisit par la main et lui dit, Talita kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Alléluia. J'ai eu le privilège pendant mon ministère d'être témoin de plusieurs miracles assez spectaculaires. J'ai jamais vu quelqu'un ressusciter de la mort. Ça doit être très spectaculaire. Hein? 8 fois seulement dans la Bible. Il y a 124 miracles décrits en détail dans la Bible. Des guérisons pour la plupart, d'autres miracles. Il n'y a que 8 résurrections. Et je n'étais pas là. Je les ai manqués tous les 8. Oui, vous riez, mais vous les avez manqués aussi. Hein? Mais un jour d'ici peu, mes frères et sœurs, entendez et aussi écoutez bien, parce qu'il va y avoir une trompette qui va sonner, et un archange qui va crier. J'espère, la Bible ne dit pas pendant combien de temps la trompette va sonner, combien de temps l'archange va crier. On a l'impression que c'est quelques secondes seulement. J'espère que c'est au moins une dizaine, un quart d'heure, 10 heures de minute, 15. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je saute dans la voiture et je conduis à 200 à l'heure jusqu'au cimetière un peu plus loin de notre église où sont enterrés des dizaines, sinon des centaines de frères et sœurs que j'ai connus. Je voudrais les voir ressusciter. Vous venez avec moi? J'ai encore 4 places dans la voiture. Oui, c'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Elle se leva. Quel miracle! J'ai tout à l'heure essayé de me mettre dans la tête de Jaïrus et de sentir sa tristesse, sa déception lors de quand il entend que sa fille est morte. J'arrive un peu, et vous arrivez aussi. Nous arrivons un peu à nous mettre dans sa tête, parce que nous aussi, nous avons expérimenté une nouvelle pareille. Est-ce que nous pouvons nous mettre dans la tête de Jaïrus maintenant, qui voit sa fille ressuscitée? Non. Non. Mais on peut être témoin d'une joie incroyable, n'est-ce pas? Ne crains pas, crois seulement. Il a cru. Résultat, sa fille est ressuscitée. Alors, tous les Jaïrus parmi nous ce matin, frères et sœurs, toutes nos circonstances, toutes nos situations, tous nos besoins, nos problèmes, nos maladies, nos luttes, tous, ils ont des dimensions divines. Alors arrêtons de ne les regarder que par le microscope de la peur et commençons à les regarder par le télescope de la foi. N'est-ce pas? Suivons l'exemple de Jaïrus. Allons à Jésus avec nos soucis, même si nous avons attendu si longtemps. Et permettons à la lumière de la parole de Dieu à briller sur nos problèmes et nos circonstances, afin que nous puissions les voir, pas seulement comme le monde les présente, pas seulement comme le diable nous les présente, mais aussi et surtout comme Dieu les voit. Ne crains pas, crois seulement. La dimension humaine de la situation de Jaïrus est la mort. Mais Jésus remplace cette dimension humaine de la mort par la dimension divine de la vie. Et il opère un miracle de résurrection qui est beaucoup plus grand que le miracle de guérison que Jaïrus a demandé. Au début, ne crains pas, crois seulement. Et à vous et à moi ce matin, Jésus nous dit, lève-toi. La vie n'est pas finie, bien que ça puisse sembler autrement. Nos espoirs, nos ambitions ne sont pas détruits. Lève-toi. Au nom de Jésus.